Aujourd'hui donc nous allons traiter de deux sujets. L'un d'entre eux, le premier, c'est le déluge, et le deuxième, c'est l'arche de Noah. Et on va essayer de comprendre en fait de quoi il s'agit en profondeur. Kadosh Baruch Hu nous permettra de voir. Sefer Shmona Kvatim, dans un des livres du Rav Kook qui s'appelle Shmona Kvatim, dans le premier chapitre, Aleph Siman Tarza, Nedaber HaRav Kook Zatzal al Elbono shel Ruach HaGadol. Le Rav parle de la honte du grand souffle. Qu'est-ce que la honte du grand souffle? La vexation de la grande lumière de la Torah. Biglal ha-choshech ha-kafrani. Tout ceci à cause de certaines personnes qui ont noirci en réalité par leur peur ce degré d'étude qui est la profondeur de la Torah, la grandeur de la Torah, le grand souffle de la Torah, pour s'occuper malheureusement d'une Torah qui est beaucoup plus basse, en repoussant et en vexant en fait la partie secrète de l'étude. Shetalash et haTorah miYesodotei haGnuzim. Cette approche de la Torah a tout simplement arraché la Torah de ses profondeurs et de ses fondements les plus profonds. Arav medaber shama la chofesh apnimi shebaneshama she'atid leitparet uleishtacher mima'atzaro. Le Rav Kook dit, dans le même chapitre, que la Neshama étant issue du monde de la liberté absolue, car l'éternité c'est la liberté, l'une des caractéristiques de l'infini béni soit-il, c'est la liberté absolue, bien, étant donné que la Neshama vient de ce même degré, elle va un jour ou l'autre exploser, et s'exposer, sortir, se libérer de sa prison. Kedel Hashuv, afin de revenir, velinok mi mekor haChaim, et de se délecter de l'essence même de la vie, shemimeno davka yitzmach or haYeshua laOlam. Le Rav dit, c'est à ce moment-là que le souffle messianique se réveillera dans le monde. Nous y sommes, hein, ne vous inquiétez pas. Rav Omer, le Rav continue de nous dire, Shechayavim le'achshir et alevavot. Ce qui nous reste à faire, c'est d'éduquer et de cachériser en fait les cœurs, de les calmer, de les rassurer, de leur montrer que cette étude n'est pas dangereuse, les orach el Torah pnimit ve'amitit, et de mettre ses cœurs face à cette grande lumière d'une Torah profonde et vraie. Les razeh haTorah, je cite les termes du Rav, jusqu'au secret de la Torah, chez kol kach menakrim otam, qui ont été tellement bafoués, ve kol kach mal'ivim bahem, et tellement vexés et repoussés. Ve'anu besiata dishmaya, et nous, avec l'aide d'Hachem, Nigash el Parashat Noach, nous allons approcher, aborder la section de Noach, Mikoach Divrei Harav Zatzal, par la force de ses paroles, du Rav Kook, sa mémoire soit bénie, Venishtadel leachzir atara leyoshna beferush pnimi achshave lechol nefesh. Et on essaiera de montrer que dans tout le récit de la Torah se cache une profondeur extraordinaire, mais on va essayer de le faire, bien entendu, comme on essaye de le faire à chaque fois, d'un niveau qui puisse être accessible à tout un chacun. Tous ceux qui ont malheureusement enseigné beaucoup de gens ont enseigné la Torah avec une peur de cette partie de la Torah, de la partie secrète de la Torah. Et donc, jusqu'à faire à peur aux gens, de cette Torah. Vous avez sûrement déjà entendu que étudier le Zohar, c'est dangereux. Si vous me dites oui, c'est que vous l'avez déjà entendu, c'est passé de l'un à l'autre. Ça rend fou, et tout est mille et une choses. Okay? Alors que le Hari HaKadosh nous dit que sans cette Torah, il n'y aura pas de Mashiach. Et le Zohar lui-même le dit. Il n'y a pas de dévoilement messianique sans cette Torah. Ça fait peur. Tellement le Yetzer Hara, il nous a joué des tours, et il a réussi à convaincre les gens de ne pas s'approcher de cette étude. C'est extraordinaire. A Pasuk Melamed. Donc je rentre directement dans le verset. L'un des versets de la section de Noach nous dit « Vayavon Noach Ubanat Veishto » Noach est venu avec sa femme, avec ses enfants, ou Neshebanav avec les femmes de ses enfants, Ito El Hateva, avec lui, dans l'arche. Mipne Mei Hammaboul, à cause des eaux du déluge. Si la Torah vient mentionner une raison pour laquelle Noach entre dans l'arche, c'est que cette raison, c'est celle qui l'a poussé à y entrer. Autrement dit, j'aurais pu avoir un autre verset qui dit « Et Noach est venu, lui, sa femme, ses enfants, dans l'arche. » C'est tout. Pas besoin de me rajouter « Mi peine à cause de peur des eaux déluviennes. » Pourquoi il devait rentrer dans l'arche? Ce que Dieu lui a dit. Mais là, c'est pas ce que le texte nous dit. Noach ne rentre pas dans l'arche, si ce n'est qu'après avoir eu peur des eaux déluviennes. Rachid, qui voit immédiatement le problème, dit sur place, Noach mikatne amana haya. Noach était un petit dans la Emouna. Il n'avait pas une grande Emouna. Ma'amin ve'eino ma'amin. Il avait la Emouna, et il ne l'avait pas. Comment est-ce qu'on peut avoir les deux en même temps? Ma'amin ve'eno ma'amin sheyavo ha-maboul. Donc il croyait sans croire que le Maboul allait arriver. Ad, jusqu'à quel moment? Shedachakuhu ha-maim. Jusqu'à ce que les eaux l'aient poussé. Dachakuoto, l'ont obligé, acculé. Qu'est-ce que c'est que ces eaux? Oui? Il a construit pendant 120 ans? Non? Puisque il n'est pas entré dans la Teva. On peut construire un édifice, parce que Dieu nous dit de le construire, mais le fait d'y entrer, c'est encore un autre degré. C'est déjà lâcher quelque chose. Quand je construis l'arche, je suis encore dans le monde. Je suis encore dans mon univers. Ça ne me coûte pas. Au lieu de faire X, je fais Y. Mais entrer dans l'arche, c'est se couper du monde. Là, c'est déjà quelque chose de plus évolué, de plus recherché. C'est un risque. C'est quelque chose qui me dit que quelque chose va faire en sorte, apparemment, que seuls les uns ou les autres vont être vivants, vont rester vivants. Okay. C'est un prophète. Noach, c'est un prophète. Un prophète, c'est-à-dire Dieu prophétise Noach. Et Rachid qui voit le problème, parce que la Torah est hasard de mots. Donc si elle nous dit que Noach n'est rentré que parce qu'il y avait les eaux, ça veut dire tout simplement qu'il a attendu le dernier moment pour voir vraiment que ça se réalise. Donc là, il y a un manque de Emouna. Et donc, Rachid nous dit, d'un côté, il a la Emouna. Donc on peut dire que sa Emouna, c'est de construire et de savoir, d'avoir confiance. Et un manque de Emouna. Parce que il y a une appréhension, peut-être que ce n'est pas. Alors, il avait une prophétie qui lui disait. Donc il savait tout ça. Le problème est ailleurs. Le problème est ailleurs. D'abord, Amaïn, Hemremez la Torah. Avant tout, l'eau, c'est une allusion à la Torah. Venir est, et il semblerait, Sha'emet hi asher dachaka besofo shel davar et noach. La Torah, c'est la vérité. Donc c'est la vérité qui a poussé Noach à entrer dans l'arche. Ça vous rappelle quelque chose? Le don de la Torah au Mont Sinaï. Akadosh Baruch Hu, tant qu'il ne nous a pas forcé à recevoir la Torah en nous mettant la montagne sur la tête, on ne l'avait pas encore véritablement reçu. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il nous a mis sur la tête? Il nous a en réalité mis face à la vérité dans son absolu. C'est ça, mettre la montagne sur la tête. Oubliez les images, on n'est pas des enfants. C'est-à-dire, il nous a mis face à la vérité absolue, et face à cette vérité, tu ne peux rien faire que accepter. Comme si on t'avait mis une montagne sur la tête. C'est ça que ça veut dire. Mais c'est la même chose pour Noir. Tant que Noir ne voit pas la vérité face à lui, il a des doutes. Ma'amin, ve'eino ma'amin. Je ne sais pas trop. Mais une fois que l'eau est en train d'arriver, et qu'il voit que la parole divine se réalise effectivement, là, il est face à la vérité, donc c'est la vérité qui le pousse. Il ne peut plus faire marche arrière. Kedugmat mashekara be'ar Sinai. Donc, comme ce qui s'est passé au Mont Sinai, shekafa alem et ahar kegigi, où là-bas, Dieu a posé la montagne au-dessus de la tête des enfants d'Israël, ve'haven, et il faut que tu comprennes, she'are pele gadol hu, לחשוב בנוח שהתורה עצמה מכנה אותו בתואר צדיק. Et là donc je pose la question, il faut véritablement comprendre ce que nous-mêmes nous venons de dire. Nous sommes en train de mettre en réalité les paroles mêmes de la Torah en doute. Pas moi, Rashi. Puisque la Torah elle-même définit Noach comme tzadik. Elle est toldot Noach. Noach, ish tzadik tamim, haya bedorotav. Et ha-Elohim ithalech Noach. Vayoled Noach shlosha banim. Katatatatat. Bedorotav. Mais quoi? Le dorotav, ça veut dire que là où il est, pas bedoro. Pas bedoro. Le dorotav, ça veut dire à toutes les générations. Donc je ne veux pas, moi, dire le contraire de ce que la Torah dit. Pourquoi rabaisser le niveau de Noach? Alors pourquoi Rashi le fait? Pourquoi Rashi nous dit que Noach était ma'amin? Ve'eino ma'amin. Quel est le sens de ce que Rashi est en train de nous dire? Et donc la Torah lui dit que c'est un tzaddik. Ve'lomar shaya mikatne amana. Et donc, considérer qu'il était petit dans la emuna. Et là, chez les moussag emuna yesh kama panim. Alors d'abord et avant tout, il faut qu'on comprenne ce que représente la Emouna. Que veut dire Emouna ou Amana? Allez, première explication. Kipshuto, dans le premier sens, le plus simple. Emouna ba meshene emar shekachir. J'ai confiance en ce que l'Éternel m'a dit, je sais que ça se passera comme il me l'a dit. Première explication de ce que veut dire le mot Emouna. Anima amin. Donc, confiance. Deuxième explication de ce terme, de Emouna. Emouna milashon vayehi omen et hadassa. Là, je prends un verset de la Megillah d'Esther, en parlant de Mordechai qui avait un lien de omen par rapport à Hadassa, qui est Esther. Donc, qu'est-ce que c'est omen? Quelqu'un qui fait acheminer certains degrés à l'enfant. Je peux dire avec des mots simples que Mordechai était en réalité la nounou de Esther. L'entraîneur. Le maître qui va donner en fait à Esther tous les éléments qu'elle a besoin pour sa vie. C'est-à-dire toutes les références du divin que c'est Mordechai qui apporte à Esther. La nourriture. L'argent, tout ce qu'elle a besoin pour vivre. Voilà, Mordechai, c'est comme Moshe Rabbeinu, dans sa génération. Donc, Vayehi Omen et Adassa. Qu'est-ce que c'est le mot Omen en hébreu? Donc, Veu Lashon Hamshacha Vegidoul. Qu'est-ce que c'est Omen? Donc, c'est Hamshacha, les Hamshir, c'est-à-dire faire venir, faire acheminer. pas les amchir, continuer, dans le sens de prendre un élément qui est déjà et le faire venir, le tirer vers. Eh bien, ça, c'est ce que Mordechai fait. Et ça, c'est ce que chacun qui est considéré comme Ma'amin fait. Dès lors, nous sommes obligés de conclure que si je dis, par exemple, Ani Ma'amin Bebiyat HaMashiach, comment est-ce que vous allez le traduire? Je fais venir le Mashiach. C'est pas je crois en la venue du Mashiach, bidon. Ani ma'amin betriat ametim. Je fais en sorte que la résurrection des morts arrive. Hamshacha. Donc le mot emuna, c'est pas ce que vous avez cru jusqu'à maintenant, en tout cas pas seulement. C'est beaucoup plus profond que cela. C'est faire venir la chose dans laquelle tu as emuna. Ani ma'amin ve'atmi. J'ai foi en moi, j'ai le droit? Non, j'ai pas le droit. J'ai une obligation. Quelqu'un qui n'a pas foi en soi, il est mort. Okay? Donc la chose en qui j'ai le plus confiance et en laquelle je peux moi-même acheminer le moi-même, c'est moi-même. Si je n'ai pas conscience de ma propre vie, je suis très malade. Faut vite m'enfermer. Donc, la chose dans laquelle vous avez le plus de émouna, c'est laquelle? En soi. La chose la plus difficile à avoir la émouna, c'est qui? Akadosh Baruch Hu. Faites venir Dieu sur terre. Alors les gens que je vois dans la rue, ils disent, moi j'ai émouna en Akadosh Baruch Hu, mais en moi non. Extraordinaire. Tu peux faire venir Dieu dans ce monde, mais toi, tu n'arrives même pas à te réaliser. C'est n'importe quoi, mais du grand n'importe quoi. C'est une maladie. Donc en réalité, on ne peut pas dire une chose pareille. Donc qu'est-ce que c'est la emuna? Ani ma'amin, c'est ani mamshir. She'al yedea emuna, autrement dit, grâce à cette action, grâce à ce verbe de emuna, Mimshach adavar, je fais en sorte que la chose en question en laquelle j'ai foi, je la fais venir Mimekoro depuis sa source, Veba derech ha'ma'amin, elle traverse celui qui a foi. Donc qui est le plus grand ma'amin de ce monde? Akadosh Baruch Hu. Puisqu'il a créé en fait le monde. Donc il fait venir son être, béni soit-il, dans ce monde. Donc qui est le plus grand ma'amin? C'est lui. Nous, nous ne sommes que des imitateurs de ce grand ma'amin qu'est Akadosh Baruch Hu. Rabba emunatecha, tous les matins vous le dites. Modé ani lefanecha, melech chai vekayam, shechezar tabi nishmati bechemla. Non, ça c'est en français. Bechemla rabba, comme au Gan. C'est des bêtises. Bechemla, point. C'est fini. La phrase, elle est finie. Rabba emunatecha. C'est autre chose. Grande état emuna, toi, Akadosh Baruch Hu. En qui? En moi. Tous les matins, au réveil, je dis merci Dieu de croire en moi. Mais quand on enseigne ça aux enfants au Gan, ça devient une chanson. Bechemla, rabba emunatecha. Et ça ne veut rien dire. Et les gens grandissent sans rien comprendre jusqu'à 70 ans, 15, 80, 90.
Pourquoi pas
120? 120. Parce que j'en ai pas eu encore qui viennent à mes shiurim 120. Voilà. Mais celui qui, quiconque fait attention au point, et c'est l'essentiel des choses, sans le point je ne peux pas lire une phrase, parce que je commence une autre phrase. C'est d'ailleurs comme ça qu'on prouve qu'on ne comprend pas une langue. Si vous lisez dans le Hallel, Enaim laem velo yiru oznaim, il y a un problème. Il y a marqué Enaim laem velo yiru, point. Oznaim laem velo yishmeu, c'est un autre verset. Mais si tu ne sais pas faire le lien entre les versets, tu racontes n'importe quoi. Parce que le verset ne se termine pas. Et donc, au lieu de lire, par exemple, Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz, Veharetz, tu rajoutes. Point. Ça ne veut plus rien dire. Ou Bereshit bara, point. Et ta chamaï et ta arrête. C'est n'importe quoi. Donc si vous voulez comprendre un texte, avant tout, mettez les points. La ponctuation va vous aider à rythmer votre explication du texte. Et comme les sages sont intelligents, ils n'ont pas mis de points nulle part pour se forcer à faire l'effort. Et dans les gmarotes, il n'y a pas de points. Et les gens qui comprennent rien à la gmara, c'est parce qu'ils lisent des phrases qui sont déjà dans l'autre phrase sans rien comprendre. Ah ben oui, c'est dur. C'est ce qui est dur et vrai. Et c'est ça l'essentiel de l'étude. Et vous allez voir, c'est dans la continuité de mon cours. Je vous le dis maintenant, savoir mettre les points dans votre vie et les virgules. Si vous ne savez pas les mettre, vous êtes dans un grand désordre. Vous avez tous les mots, vous avez toutes les phrases, mais n'importe comment. Parce que justement, une phrase rentre dans l'autre. Elle n'a pas gardé sa frontière. Et si je n'ai pas des phrases qui ont des frontières, eh bien ce ne sont plus des phrases. Il y a un problème avec ces phrases. Ce sont des phrases qui pénètrent les unes dans les autres en faisant une grande matboucha, et c'est fini. Alors imaginez-vous que les phrases et les lettres, ce sont nous. C'est nous. Vous savez où vous commencez et où vous vous terminez? Ou bien vous avez une tendance à rentrer dans la vie de quelqu'un d'autre sans arrêt, à lui pénétrer dans la vie, à lui tuer la vie parce que vous êtes trop dedans. C'est la même chose. Vous ne savez pas vous limiter à vous. Vous rentrez en essayant de faire du bien entendu. Mais tellement tu vas chez l'autre que tu as oublié tes propres limites, qu'au lieu de faire du bien à l'autre, tu ne fais que l'étouffer. Tu lui gâches la vie. Et si on te demande, mais pourquoi tu ne laisses pas tranquille? Mais c'est pour son bien. Mais c'est exactement pareil qu'une phrase qui entre dans l'autre phrase, qu'un domaine qui pénètre dans un autre domaine, et attention, dans le corps humain, une cellule qui rentre dans l'autre, c'est le cancer. Et c'est pour ça que les gens ne savent pas éduquer. Parce qu'ils rentrent, il pénètre dans le domaine d'autrui. Et il faut toujours laisser la liberté à l'élève, même quand on est un rab, de faire le tri, de faire le travail. Je dis ce que j'ai à dire, mais vous, vous devez toujours réfléchir intelligemment. Je n'ai pas le droit de violer. Je n'ai pas le droit de forcer. Sinon, c'est de la violence. Eh bien, dans tous les degrés de ce monde, c'est exactement pareil. Alors, il faut le calmer. On n'a pas le droit de lui enseigner la Torah. On n'a pas le droit d'enseigner à la Torah à quelqu'un qui n'a pas arrangé ses vertus. Michel Loderech Eretz Assur Lelamdo Torah. C'est une règle. Il y a les gens qui n'ont pas de savoir-vivre. La Torah qu'ils vont étudier va être plus dangereuse pour eux que de ne pas l'étudier.
Mais c'est la Torah qui fait le tikkun.
Pas du tout. Pas du tout. Derech Eretz, Kadma, la Torah, il y a deux choses ici. Sinon, on n'aurait pas dit ça. On aurait dit, à Torah, metaken et takol. Et les sages nous disent, Zacha, s'il a fait ce travail, la Torah n'a fait lo sam chaim, ça devient un élixir de vie. Mais l'ozacha, la Torah n'a fait lo sam hamavet. La Torah elle-même est un poison.
Alors,
des référents, c'est aussi des vertus, et c'est aussi autre chose. Mais c'est aussi des vertus. C'est-à-dire, des refs, shetzarich, leitnaeg, ba'aritz. C'est tout.
Et ça, ça s'enseigne
chez les Pirkei Avot.
C'est pas une étude de Torah.
Non. C'est une étude, je peux vous enseigner quand j'enseigne la Torah, aussi, comme je suis en train de le faire maintenant. Mais si le maître que tu as t'enseigne la Torah sans t'enseigner les valeurs qui se cachent à l'intérieur, eh bien c'est à la Torah sèche, sans les vertus de vie. Et cette Torah sèche, c'est comme une lumière, qui te pénètre et qui fait tout exploser dans ton être parce que tu n'as pas les mesures adéquates. Mais justement, c'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que je suis en train de dire. L'éducation précède la Torah. Et donc, il faut faire très attention. Combien de temps avant de recevoir la Torah, le monde existe? 26 générations. Alors quoi? Alors qu'est-ce qu'ils faisaient, les gens, avant? Eh bien, ils étudiaient Pirkei Avot. C'est-à-dire la loi naturelle de ce monde. Nous sommes dans une semaine qui est pour Manitou Alav Shalom. Eh bien, l'un des cours maîtres de Manitou, de Rabbi Léon Ashkenazi, Yehuda Ashkenazi Alav Shalom, c'est la Torah du Père face à la Torah du Maître. Nous, dans la Torah, on connaît que Torah Harav. Harav Amar. Vema Amar Ha'av. Voilà. La Torah du Père, elle précède la Torah du Maître. Si tu n'as pas une Torah de Père, tu ne pourras jamais avoir une Torah du Maître. Faire rentrer des informations toraniques dans la tête d'un homme, ça ne va jamais l'arranger. Il faut qu'il arrange ses vertus avant, sinon il est en danger. Alors le parent, c'est ce que je dis, Torah Ha'av. Maintenant, pour savoir où je commence et je termine, j'ai besoin d'avoir des limites. Donc, Noach, maintenant, on va revenir à Noach. Hamamim Bashem Itbarach, donc celui, c'est la, dans le petit bête, la dernière ligne, celui qui a Emouna en Hachem, Mazrim Darko, bien c'est quelqu'un qui en réalité fait écouler à travers son prisme à lui, de Mahamim, le divin. Si je dis que je suis Mahamim en Dieu, qu'est-ce que je fais toute la journée? Je fais passer du divin à travers moi. Vous comprenez ce que ça veut dire Mahamim? Les Hashlamat Haolam, Mikol Chesrodotav, et quand je fais ça, qu'est-ce que je fais en réalité? Je comble tous les manques de ce monde. Donc Dieu m'utilise. Donc je deviens un ma'amin, donc il est me'amen oti. Il fait entraîner sa lumière à travers moi. Et je deviens donc un porteur de lumière, un passeur de lumière, d'un degré à un autre degré. Donc faire passer c'est leha avir, donc je deviens ivri. Je suis un ivri. Qu'est-ce que c'est Nahar Ivri Anochi? Je suis un hébreu. N'importe quoi. Ben oui, mais il faut comprendre l'essence. Hébreu en français, ça veut rien dire. D'ailleurs, quand on veut dire qu'on comprend rien, on dit c'est comme de l'hébreu pour moi. C'est exactement l'inverse. Quand j'étais en France, on me disait c'est de l'hébreu pour moi, je disais alvaï. Noach, he'emin bedvar Hashem. Alors on ne peut pas dire que Noach n'avait pas de Emouna. Noach, au contraire, il était l'élément par lequel la lumière de Dieu passait. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Puisque Dieu a dit que le déluge viendrait, il s'est dit c'est moi donc le véhicule du déluge, dont je suis le porteur du déluge dans ce monde, j'ai pas envie de porter cette chose-là au monde. La reine a yayaré les amim. Donc qu'est-ce qu'il a fait à sa propre Emouna? Il a bloqué. Il s'est dit, je vais couper un petit peu mon circuit. J'ai pas envie de détruire ce monde. Vous avez compris? C'est encore plus de Emouna. Be'emouna shlema ve'kolevavo, donc il était ma'amin d'un côté, maintenant on comprend Rashi. Ma'amin ve'eino ma'amin. C'est-à-dire, j'ai confiance en toi Dieu, je sais que le déluge va arriver. Et justement, je veux pas qu'il passe par moi. Je veux pas qu'un jour on m'appelle le déluge, comment est-ce qu'on va l'appeler un jour? Les eaux de Noir. J'ai pas envie de ça. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Mei Noir. Le Maboul s'appelle aujourd'hui Mei Noah. Alors le pauvre Noah, comment il est considéré? Comme celui qui a été le messager de la destruction. J'ai pas envie de jouer ce rôle.
C'est pas comme Yonah.
Exactement comme Yonah. Même rôle. Donc je veux en réalité arrêter d'être prophète. Je ne veux plus que Dieu passe par moi pour ce genre de choses. Que ce soit le bien, il n'y a pas de problème. Mais là, il s'agit de ma boule. J'ai pas envie.
La preuve, c'est que la cas de Moreau, il n'y a pas besoin de son pied, finalement.
Alors, on verra, on verra, on verra. On verra. Pourquoi? Vous le connaissez? Pas du tout. Au contraire, je suis en train de dire qu'il avait une telle grande émouna, qu'il était tellement prophète, qu'il avait peur de jouer ce rôle. Au contraire. C'est comme si Chas v'Shalom Akadosh Baruch Hu vient dire à quelqu'un, toutes les nuits, tu es le messager, tu vas dire à telle personne, Chas v'Shalom, que quelqu'un va mourir. Il a envie d'être le messager de ça? Non. Eh bien, c'est pareil. Noach, il veut pas jouer ce rôle. Shelor asaliot agorem, lehava atamaboul. Donc, au contraire, c'est un grand personnage, Noach. Moi, j'aimerais bien avoir une paracha à mon nom dans la Torah. Hein. Bon, bien un livre. Hein. Mais quand même. Kevan Sheyada Soda Emuna, parce que justement, il connaissait le cours. Il était déjà venu. Shehu Am Shachat Adavar, donc il avait écouté le cours que j'avais donné, en ce sens-là, et il savait que les Ha'amin, c'est acheminer. D'ailleurs, en français, amener, Emuna. C'est les mêmes lettres. Emmener, qu'elle prendre par la main, Emuna. Vous savez d'ailleurs qu'en français, la plupart des Français, moi je n'en suis pas un à la source, font cette erreur. On ne peut pas dire amène-moi un verre. Apporte-moi un verre. On amène une personne, on ne peut pas amener un objet. Mais bon, peu importe, ça passe comme ça, mais moi j'ai appris à la base, donc j'ai besoin de comprendre ce que j'étudie. Toujours, que ce soit en chinois, en japonais. Et en arabe. Lachen, Amar Rachizal, c'est pour ça que maintenant Rashi, qui est tellement profond ce Rashi, extraordinaire. Noach Mikatne Amanaya, donc Noach c'était un homme qui a voulu rapetisser, je ne sais pas si on dit comme ça, rapetisser la Emouna.
C'est le contraire de Jonah.
Hein?
Jonah, il ne voulait pas sauver des
non, peuples. Non. Il ne voulait pas que justement le peuple d'Israël soit détruit parce que des goy allaient faire tshuva facilement. Les gens de Ninive, ce n'étaient pas des juifs. Donc, qu'il allait leur dire la prophétie, les gens de Ninive, on a vu qu'ils sont tout de suite fait tshuva, ça aurait été en réalité contre le peuple d'Israël. La Kadosh Baruch Hu aurait dit, regarde cela, en deux jours, ils ont tout compris, les juifs, il a beau leur parler, ou allô. C'est ça qu'ils ne voulaient pas. La même chose. Donc, Noach mikatne amanaya. Comment vous traduisez maintenant ce texte? Noach, c'était lui qui faisait rapetisser, vous avez dit? Pourquoi réduire, c'est avec la hier, et rapetisser, c'est pas rapetisser? Pourquoi on dit agrandir et pas agrandir? Il y a quelqu'un qui peut m'expliquer? Non. Alors, je continue à dire rapetisser. Donc, le rassure. Le rassure. Qu'est-ce? Non, rapetisser. Pourquoi rapetisser? Vous dites agrandir? Ou agrandir? Alors, c'est tout. Alors, Noach Mikatne Emunaya. Donc, c'est celui qui réduisait, en fait, la Emuna, volontairement. Ma'amin ve'eino ma'amin. Shaya ma'amin b'dvar Hashem. Donc, il avait confiance totale dans la parole divine. Et la Shaya yaremi leha amin b'shlemut. Il avait peur de le faire d'une manière complète. Ve'la afoch le mishegorim ba'atmo le'avat ha'mabul ala olam. Et ne pas être, en fait, le conducteur du mal. Veine, d'orger et chumot et frino. Alors maintenant, je vous ai dit, en fait, que mettre des points et des virgules, c'était la chose la plus importante dans notre vie. Et savoir votre limite. Et savoir ce que vous avez à dire, et ce que vous devez surtout pas dire. Et savoir quand parler, et quand se taire. Et savoir quand donner, et quand arrêter de donner. Vous savez tout ça? Ben, c'est exactement ce qu'il faut apprendre. Ça s'apprend. Alors, la première des choses dans ce monde, c'est de savoir mettre des freins. Ok? Comment est-ce qu'on dit un frein en hébreu? Bolem, balam. c'est-à-dire bolem, pas break. Break, c'est en anglais. Ken, give me a break, c'est lâche-moi la jambe. Ken, give me a break. Donc, bolem, c'est blima. Donc, le mot bolem, c'est mettre des freins. Si tu ne sais pas mettre des freins, tu as les mêmes lettres à l'envers. Ma, boule. C'est-à-dire le maboul, c'est tout simplement enlever les freins dans la voiture. Ou enlever les freins dans votre vie. Parlez comme vous avez envie de dire, dire à tout le monde ce que vous pensez, quand vous voulez, à n'importe quelle heure, donner à tout le monde, sans arrêt. C'est pas une vie, ça. Il n'y a pas de frein. C'est une maladie. La même chose au niveau de la réception. Pour recevoir quelque chose, j'ai besoin d'un frein. Bien sûr. Regardez, avant de boire ce verre d'eau, j'ai fait une bracha. Cette bracha que je viens de faire avant de consommer, c'était le frein qui m'a permis de recevoir. C'est-à-dire, avant de recevoir, j'ai dit comme ça, non. Je veux recevoir en donnant quelque chose. C'est-à-dire, j'ai fait un écran pour pouvoir recevoir réellement et d'une manière normale cette eau. Si j'avais bu cette eau sans faire ce frein, l'eau, vous avez l'impression qu'elle est rentrée pareil dans le corps, d'accord ? Physiologiquement, c'est la même eau. Eh bien, tout est chamboulé dans le corps. Et les gens ne savent pas ça. Ils se disent, quoi ? Alors on est obligé à partir de maintenant de parler au verre avant de le boire. On va me prendre pour un fou. D'ailleurs, quand j'étais en France, dans certaines endroits, j'étais pas qu'avec des juifs quand j'avais des expositions. Donc je prenais le verre, je me disais, bah ouh, rata. Les gens à côté, ils disaient à mon agent, qu'est-ce qu'il a ? Alors dans les blagues, j'utilisais ça. Je vous ai vu me regarder quand je parlais au verre. Mais si vous saviez ce que j'étais en train de lui dire, vous auriez eu envie d'être à sa place. Alors apprends-nous. Je dis, ah non, tout à l'heure tu t'es moqué de moi. Maintenant tu veux que je t'apprenne? Tu m'as jugé juste comme ça en me voyant. Tu sais même pas ce qui se passe. Mais c'est exactement dans toute chose dans ce monde. Alors regardez maintenant. Dans Cher et Shumot, les kabbalistes qui savaient en fait le secret des mots et leur permutation. C'est possible, il y a déjà moins qu'un. Quoi, c'est déjà trois quarts d'heure? Ils prirent ou baoubdash et tevat maboul ve bolem. Ils se sont aperçus que les deux mots bolem et maboul étaient les mêmes au kabot motanotiot mamash. Et on sait que tout l'univers tient de cette manière. Comme il est écrit dans Job, pas le boulot, hein, Iov. Okay? Dans Iov, il est une phrase, Tole Eretz al Blima. Qu'est-ce que ça veut dire Tole Eretz al Blima? La terre elle-même, comment est-ce qu'elle tient dans l'univers? Par quoi à quoi? Qu'est-ce qui la fait tenir? Qu'est-ce qui fait tenir les étoiles dans l'univers? Quoi? Dites-moi, vous avez une réponse ou pas? Des freins? Des freins, comment? Quels freins? Mais non, regardez bien, c'est tellement intelligent comment Kadosh Baruch Hu a créé ce monde, ça fait peur. Cette petite étoile, elle est attirée par celle-là. Donc elle a envie d'aller la rejoindre. Mais seulement elle est attirée aussi par celle-là. Mais seulement celle-là aussi lui dit moi. Et celle-là lui dit mais moi, tu m'as oublié. Et celle qui est derrière, et celle qui est devant, et celle qui est devant, et celle-là. C'est-à-dire, elle est attirée par 200 millions d'étoiles, donc elle ne bouge plus, elle ne fait que tourner parce qu'elle est nerveuse. Mais c'est comme ça, Rabotaï, c'est extraordinaire. Il y a un aimant entre tout et tout dans cet univers. Vous sortez maintenant et vous réfléchissez juste à ça, vous avez peur. C'est énorme ce qui est en train de se passer.
On arrête de bouger, on reste sur place.
Si Chas Veshalom, Akadosh Baruch Hu, arrêtez ce frein-là. Et c'est ce champ électromagnétique entre tous les éléments. Mais il n'y a plus rien. Bien fait. Il faut construire une arche. Il faut construire une arche. Qu'est-ce que ça veut dire construire une arche? Construire des mesures. Tout simplement mettre des limites à votre vie dans tous les domaines. À quelle heure vous mangez, à quelle heure vous dormez, combien de temps vous dormez, combien de temps vous faites ci, combien de temps vous faites ça, à quelle fréquence vous faites ci, à quelle fréquence vous faites ça, combien de...
Tout.
C'est énorme. Mais badaï, pourquoi le charmène? Au contraire, c'est extraordinaire d'équilibrer le monde sans arrêt. À qui j'ai mal parlé aujourd'hui? Qui attendait que je lui parle bien aujourd'hui et je n'ai pas fait l'effort d'appeler? Si tu rentres dormir avec cet effet dans la tête, c'est extraordinaire, tu changes complètement de vie. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On écrase grossièrement. Mais on écrase qui? Des gens, des êtres, des animaux, des plantes, des... tout. Combien de fois vous jetez des bouts de papier comme ça par terre, sur la terre d'Israël? Baruch HaShem. Mais vous comprenez tout cet élément? Toler et salblima. Klomar she'olam omed al midat adin. Aujourd'hui, on peut faire un jeu de mots, tiens, c'est que pour les Israéliens. Toler et salblima.
Alors, excusez-moi, quand on marche sur la terre, c'est un problème.
C'est pour ça que la terre demande, en fait, de venir la respecter et de... D'ailleurs, après, c'est elle qui nous marche dessus. Il faut marcher sur la terre avec du respect. Bebet Hashem mehalech beregesh. Regesh. Il faut une sensibilité quand tu marches. Mais l'eau colère est que vodo. Veuzo vehi zo se chomer et al boulotav. Donc, qu'est-ce que c'est que le maboul en réalité au départ? C'est un bolem. C'est un frein qui a lâché. Donc, si le frein a lâché, il n'y a plus de frein, donc il n'y a plus de limite. Comment est-ce qu'on dit la limite? Midat ha din. Et vous avez peur de midat ha din? Pas du tout. Midat ha-din, c'est l'essence même de ce monde. Sans midat ha-din, le monde ne peut pas exister. Chacun rentre dans l'autre. Il n'y a plus de respect de quoi que ce soit. Les hommes vont aller avec qui? Avec des animaux. Mais c'est exactement ce qui s'est passé dans l'arche de Noé, avant l'arche de Noé, pendant le déluge, avant le déluge. Les gens avaient des rapports avec des animaux, les hommes et les femmes. Pourquoi? Parce que tu n'as plus de limites. Tu ne sais pas où tu dois t'arrêter. Tu n'as pas de frein dans ta vie. Tu manges sans freiner. Ça s'appelle boulmous. Boulimique. C'est la même racine. La boulimie, c'est un maboule. C'est un manque de frein. Donc il n'y a plus rien qui a sa place, alors un coup ça rentre, après tu vomis, ça sort. Il n'y a plus de réglage, Rav Shalom. Et tout ça, c'est la même racine, Rabotai. C'est une paracha extraordinaire. Extraordinaire dans notre vie. Si on sait comprendre ce secret, tout le shiurim de Shabbat, je les ai passés que sur ça. Comment apprendre à donner les limites à tous les élèves, dans tous les domaines, les attachés.
Il n'y avait pas de Torah, c'est peut-être pour ça qu'il
n'y
avait pas de limite.
Non, il y avait du Derech Eretz qui ont raté. Tu n'as pas besoin de Torah pour savoir qu'on ne se vole pas. Si j'ai besoin de la Torah pour savoir qu'il ne faut pas voler, je suis vraiment malade. Et d'ailleurs, toutes les dégradations que ces gens ont faites ont été jugées pour une seule chose à la fin. Le Gezel. Qu'est-ce que c'est le Gezel? Le fait d'aller chez l'autre et de prendre quelque chose qui ne lui appartient pas. Et on le fait tous, malheureusement. Sans l'autorisation d'un marchand au marché, au chouk. Si vous vous mettez devant son douchan d'olive, et que vous montez à manger une olive, qu'il ne permet pas, c'est du gezel, rabotage. C'est ça la définition du gezel. Et donc avant, il faut demander, est-ce que je peux goûter? Oui. Moi, je vois des gens qui sont là, ils mangent, c'est tout. Hein? Donc, imaginez-vous 200 000 personnes, le mec le poids vivant des cacahuètes, chacun y prend une. Personne n'est passé outre parce que le Gezel, il faut avoir une certaine mesure, mais le mec, il est ruiné. Mais oui. C'est pas comme ça. Vous savez jusqu'à où ça va? Jusqu'à s'accouder sur une voiture qui ne t'appartient pas, qui n'a pas le droit. Mais voilà. Qui t'a donné le droit de t'accouder sur cette voiture? C'est un objet qui appartient à quelqu'un. Tu peux pas. Ça va loin, Rabotaï. Vous voulez être éthique, vous voulez être dans la morale réelle. Il y a plein de choses à changer. Les chariots que vous amenez jusqu'à la maison, les... Dans chaque immeuble, il y a un chariot dans l'ascenseur. Qui c'est qui l'a payé, ce chariot? Ok. Lo chashuv. Aval olam shetzarich letaken oto, tzarich letaken. Tzarich liot me'ametaknim. Moi, je suis là pour vous donner une caricature. Je suis pas là pour vous dire 1, 2, 3, 4, 5. Après, vous faites ce que vous voulez, je vous l'ai déjà dit. Mais si vraiment on veut être dans la correction des choses, c'est comme ça qu'il faut être. Klomar sha'olam omed al midat adin ve'izo she'shomeret al gvulotav. Donc on a besoin des frontières, si on n'a pas de frontières, on est foutu. Abriat manasa mikoach adin shebe'emtzauto ofia l'arishona tchumat hakli. Qu'est-ce que c'est une frontière? C'est un ustensile. Cet ustensile, il a bien des frontières. Il a ses limites. S'il n'avait pas ses limites, ça aurait été un maboule. À chaque fois que je veux boire, qu'est-ce qu'on fait? On me donne une vague. Ce que je peux, je... Mais tu meurs en même temps. Eh oui. Imaginez-vous toutes les eaux du monde à la place de ce verre. À chaque fois que ça soit. Dès que tu as envie de boire, on t'envoie une vague, un tsunami. Tu as bu. Ah ouais, tu as bu. Donc, tous les kelim, c'est ça. Briata olam iblima. Blimata itpashtut shel or Hashem kivyachol. Toute la création, c'est un freinage de la lumière de Dieu. Parce que si Dieu venait avec sa pleine lumière dans notre monde, chlat alena. Il nous reste plus rien, on n'existe même plus. Donc qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu pour créer ce monde? Lui-même, il a mis un frein. Et ce frein, ça s'appelle la création, le Tzimtzoum. Qu'est-ce que c'est la racine du mot Tzimtzoum? Somme, jeûner. Savoir limiter. C'est l'inverse de boulimie. Sam, sam. Jeûner, jeûner. C'est l'hébreu, c'est un langage divin. Les autres qui de la tête m'a comme la Nivraïm. Et tout ça pour donner la place à autrui. Pas seulement autrui. Besrout Hatzimtzoum et Afcher. Ken? Besrout Hatzimtzoum. Hatzimtzoum et Afcher. Je l'ai écrit ce matin, alors excusez-moi. Hatzimtzoum et Afcher Chaim le Kol HaBriot. Le Tzimtzoum, la contraction de Dieu. Écoutez le mot même en français. Contraction. C'est une contre-action. L'action de Dieu, c'est de donner, n'est-ce pas? Il donne. Eh bien, il va contre sa nature. Donc, il fait une contre-action. Il freine quand il donne. Vous pouvez faire ça, vous? Extraordinaire. Si, vous pouvez le faire. Quand je vous donne un marteau, et vous devez taper un tout petit clou très très fin dans un encadrement où au milieu il y a un verre. Comment vous allez taper? Tout doucement. Vous mesurez, d'accord? Eh bien, vous avez la possibilité de le faire. Eh bien, Kadosh Baruch Hu, pour créer le monde, il est délicat. Il faut une délicatesse. Les filles holtein à medouyakot le achil et tor Hashem. Et tout par rapport à l'ustensile lui-même. Est-il capable ou pas de recevoir ce que je suis en train de lui donner? Vous savez le zaras que j'ai pour vous donner un cours? C'est-à-dire le cassement de tête, vous croyez que c'est facile? Parce que je suis obligé de prendre des choses qui sont énormes au niveau de la Kabbalah et de les raconter comme si je vous racontais une petite histoire qui soit compréhensible à tout le monde. Alors maintenant je vous apporte un plat tout fait, Mais vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Okay. Donner un chiour, c'est donner une mesure. Donc, hablima hik viat a chiour. Heureusement que... Je viens d'écrire, hein. Amatim le kol bria le kabbalat menat chayuta le istarfuta le malach ha-tikoun ha-klali. Donc, si vous voulez faire partie de ce grand tikoun, eh bien, il faut savoir donner les mesures à chaque chose. Donc, quelle était, en fait, la faute de cette génération? D'avoir enlevé les mesures, d'avoir enlevé les limites. Donc, tout le monde se mélange avec tout le monde. Il n'y a plus ni de végétal, ni d'animaux, ni d'hommes. Tout le monde est pareil. Et quelle est la correction de tout ça? C'est de garder tout le monde, mais dans des cases, dans des limites, dans une arche. Et chacun, il a son propre masculin, féminin, un nombre bien précis, une case bien précise, un étage bien précis dans l'arche, qui comportait combien d'étages? Trois étages. Les hommes étaient en haut, les animaux au milieu, les détritus en bas, comme l'être humain. C'est ordonné tout ça. Eh bien, c'est ça l'arche. Et quelle était la longueur de l'arche? 300. Quelle était sa largeur? 50. Et quelle était sa hauteur? 30. Ça fait 380, la valeur numérique du mot shalom. L'arche de Noah, c'est pas fabriquer un bateau parce qu'il y a de la pluie. C'est tout simplement fabriquer une mesure qui est le shalom pour que tu vives ben Noah. C'est pas un Noah. Noah, c'est agréable. Quelle est la valeur numérique de cet homme Noah? L'agréable. 58, c'est la même valeur numérique que le mot Ozen. Parce que le centre de l'équilibre, il est dans l'oreille. Donc, Ozen et Noir, c'est kif-kif. C'est la même chose. Donc, en réalité, la Torah nous raconte une histoire qui est très belle. Mais en réalité, elle est remplie de codes. Si tu ne comprends pas les codes et tu ne sais pas les décoder, tu es en train de déconner. C'est pardon. Il y a un problème. Vous comprenez que tout est comme ça, et toute cette arche. Alors, vous êtes sorti de la paracha, si vous l'avez écouté. Peu importe, on est là au cours, Baruch HaShem. Qu'est-ce que vous devez sortir avec vous dans les mains? Quoi? Les mesures de votre vie. Prenez sur vous. Faites tchouva sur la démesure que vous avez dans certaines choses. Ben oui, je parle que de ça. Bon, que ce soit pas grave, moi je donne le temps à chacun. Chacun son rythme, je respecte les rythmes de tout le monde. S'il y a des pétards à mèches, s'il y a des mèches longues, mèches courtes, c'est pas grave. Ben ava, ben met. Mais c'est très bien, Baruch HaShem. Des fois je dis pas tout exprès aussi, clairement, pour que vous fassiez un travail. C'est très bien. Ça veut dire qu'il y a ici une recherche. Sortez avec ça des cours. Ne sortez pas comme si on a entendu encore un cours. Non, j'ai décidé de prendre sur moi, de remettre ma vie dans un ordre. La vie, elle est dans un désordre. Et les désordres sont dans combien de domaines? Trois domaines. Trois, c'est tout. Il y a trois domaines dans ce monde. L'être, le temps et l'espace. C'est tout. Et l'espace. Ouais, peu importe. Mais c'est les trois domaines. Après, vous vous débrouillez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, il y a ici une recherche de trois niveaux. Je saute le texte, hein, parce que le temps est déjà passé. Alors, juste, vite, ne regardez pas vos textes. En quelle année a eu lieu le déluge? Depuis la création du monde. Non, ça c'est la naissance de Abraham. Il y a fait 1600 et des poussières. 1656. Voilà l'année du déluge.
Après la naissance
de Adam Harishon. Et alors, qu'est-ce que j'en ai à faire de ça? Eh bien, regardez comment c'est beau. Prenez le petit chiffre. 6 plus 6, 12, plus 1, 13, plus 5, 18. 18, c'est la vie. Haï, et c'est 9, c'est la vérité absolue. Ça veut dire, cette année-là, la vérité absolue est revenue sur terre au niveau du temps. L'arche, je viens de vous le prouver, c'est quoi? C'est l'équilibre par le shalom. Et Noach, c'est l'équilibre par l'être. Ça veut dire que tout ce que Noach a fait, c'est qu'il a réussi à rassembler les trois éléments essentiels de l'existence. Le temps, l'espace et l'être humain. Combien de temps ça lui a pris pour construire son arche?
120
ans. Combien de temps vous avez pour fabriquer votre mesure de vie? 120 ans. C'est pour ça qu'on dit jusqu'à 120 ans. C'est-à-dire ne partez pas de ce monde avant d'avoir fabriqué votre propre arche. Pas un cercueil. Une mesure de vie, rabotaille. C'est-à-dire corriger ne serait-ce qu'une mesure dans votre vie, celle qui vous, sans arrêt, c'est la même qui vous embête. Il y a une mesure qui vous embête. Cherchez bien, il y a une mesure ou une démesure qui est telle qui vous fait toujours les dégâts dans la vie. Vous ne savez jamais être à l'heure. C'est possible. Vous ne savez pas être au bon endroit au bon moment. Vous ne savez pas refréquenter les gens qu'il faut fréquenter, vous tombez toujours sur des gens pas normaux. Tout ça, vous posez pas des questions, pourquoi? Il y a un travail. Ça veut dire qu'il faut que je construise la mesure de ma vie. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'ivnot teva. Qu'est-ce que c'est teva en hébreu?
Un mot.
Rachet tevot. Donc si vous rentrez dans les mots, vous rentrez dans l'étude, vous avez fabriqué aussi votre arche. Il faut rentrer dans les mots. Des mots M-O-T-S contre des mots M-A-U-X. Ça veut dire que si vous ne savez pas ces mots-là, si vous ne comprenez pas le sens, vous ne vous rentrez pas dans le mot. Pas le prendre superficiellement. Regardez, je vous raconte une histoire pour enfants, le déluge Noé. Mais à quoi ça me sert de savoir cette histoire? Eh bien, Dieu est en train de nous donner une lumière immense, et malheureusement, quand tu ne sais pas la recevoir, ça devient un dégât.
J'ai pas compris pourquoi 1656, vous avez dit, c'est, il a fait le tikkun du monde à ce moment-là.
Ben oui.
Ben alors, vous voyez le magoul alors.
Justement, pour nettoyer, le monde à cette période-là précise, pour faire un mikvé. Quelle est la valeur d'un mikvé? 40 CA. Combien de jours a duré le déluge? 40. Le Harizal nous dit que c'est le mikvé du monde. Combien de temps a Kadosh Baruch Hu monté et monté pour recevoir la Torah? 40 jours. Donc en réalité, le Maboul, c'est de l'eau au départ. Et l'eau, c'est la Torah. Donc qu'est-ce qu'il voulait à Kadosh Baruch Hu? Donner la Torah à cette génération. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, si la génération n'a pas les Kélim, la Torah elle-même devient pour lui un poison. Donc ils sont morts de quoi? De overdose. Eh oui. C'est-à-dire, Torah, pas de midot. Une Torah sans midot, ça tue. Donc il faut faire très attention à Rabotai. Et ça, c'est l'essentiel de cette paracha. Alors, les sages nous disent que là, l'arche de Noah, on va ramener les choses à nous, c'est quand, c'est où? Zohar HaKadosh nous dit dans notre paracha, Eretz Israël hi tevat Noah. Vous êtes rentré dans la teva de Noah. Vous êtes rentré dans le shalom. Et ceux qui seront sauvés du dernier déluge historique seront ceux qui vivent en Israël. C'est marqué comme ça, Vahya Hanotar Behar Tzion. Ceux qui vont rester vont être dans la montagne de Tzion. Quelle sorte de déluge? Il n'y a plus de déluge d'eau. Mais il y a des milliards de formes de déluge. Donc il faut faire très attention. Et Eretz Israël, c'est l'arche. Maintenant, comment est-ce que Noach, il est allé chercher monsieur et madame éléphant? Ils sont venus tout seuls. Pourquoi ils sont venus tout seuls? Dieu leur a dit. Et les autres? Il y en a combien d'éléphants dans le monde?
Il a choisi les plus.
Alors comment ils savaient? Ish ve Isha en plus, il les a appelés. Ça veut dire, il y avait monsieur éléphant et sa femme. Alors, hein? Pardon? Tous les animaux. Il y a tous les animaux, pas tous les animaux ont failli. C'est vrai que même les animaux étaient entre la panique totale. D'ailleurs, il y a un animal qui n'a pas fauté. Le poisson. Damkhout. Il n'a pas fauté. Parce que les poissons se marient seulement avec les poissons de leur genre. Ils vont pas avec d'autres choses. C'est quelque chose d'essentiel. Donc le poisson, c'est une bracha. Bon, on met le poisson de côté. Ce poisson, c'est Shabbat. Nachot. Alors, en réalité, je vais vous dire, parce que je vais raccourcir, et je dois distribuer des livres pour ceux qui en veulent. Il y a eu une sélection, et les animaux en question, et les hommes en question ont entendu qu'ils doivent rentrer. Qui vous est arrivé quand vous êtes monté en Israël. Vous êtes rentré dans l'arche, vous ne savez même pas comment. Si on vous pose la question, vous dites, je ne sais pas, un jour je me suis réveillé, j'ai compris qu'il fallait que je m'en aille. Mais c'est la même chose. Si on interviewait monsieur éléphant, comment tu es arrivé à l'arche de Noé? Je suis rentré, je ne sais pas, j'ai compris que c'était fini. Incroyable. Et c'est la même chose. C'est pas par hasard que le Zohar compare l'arche de Noach à Eretz Israël. Il dit, pour arriver en Eretz Israël, il faut entendre un chauffard secret. Et celui qui l'a entendu, et il faut remercier Akadosh Baruch Hu Bechlal qui nous a choisi d'être ici. Et le remercier chaque instant. Et quand j'entends des gens qui le seul rêve, c'est de partir d'ici pour aller vivre je ne sais où, parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont trouver des... C'est Chas v'Shalom sortir de l'arche alors qu'il y a le Maboul dehors et tu te dis non, moi j'ai envie de mourir. Je peux? Je suis libre, non? D'accord.
Alors pourquoi Dieu avait besoin du Kéli de Noach?
Parce que l'homme doit être associé à sa propre rédemption. Donc l'homme construit son propre Kéli. Ça doit se voir où t'as donné tout. Et je vais résumer, je vais conclure. Il y a une Mida qu'il faut arranger dans ce monde. Une mesure. La première. Réchit, chokma, yir atashem. Avoir la crainte. Pas la peur, la crainte. C'est-à-dire avoir conscience de cette grandeur de l'infini béni soit-il, et des kélim et des ustensiles, des mesures que je dois lui offrir pour recevoir un peu de cette lumière. Celui qui n'a pas cette crainte, il ne peut pas construire les étapes suivantes. Il faut commencer par la ira. Dans le mot ira, il y a le mot ir'e. C'est celui qui est capable de voir, d'entrevoir. Donc il y a tellement d'éléments, mais Bezrat Hashem, vous allez pouvoir faire votre salat tout seul. Moi, je continuerai à corriger pour un nouveau livre. Toda Rabba.